Je vous invite à lire ensemble un texte du premier livre des Rois, au chapitre 21. Nous reprenons le texte que nous avons lu déjà dimanche dernier. C'est un récit d'une triste chronique de la vie ordinaire qui s'inscrit dans le cycle de la vie et du ministère du prophète Élie sous le roi Akab. Nous lisons donc dans 1 Rois, chapitre 21. Voilà ce qui arriva. Naboth, le Jisréélite, avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Jamais, que le Seigneur me garde de te donner le patrimoine de mes pères. » Akab rentra chez lui de mauvaise humeur à cause de cette parole que lui avait dite Naboth le Jisréélite, « Je ne te donnerai pas le patrimoine de mes pères. » Il se coucha sur son lit, se détourna le visage et ne voulut rien manger. Jézabel, sa femme, vint le trouver et lui dit, « Mais pourquoi as-tu l'esprit maussade? Pourquoi ne manges-tu pas ?» Il lui dit, « J'ai tenté de parler à Naboth le Jisréélite. Je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il m'a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Mais est-ce que c'est toi qui es le roi en Israël? Lève-toi, mange, que ton cœur soit content. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Jisréélite. » Elle écrivit alors, au nom d'Akab, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens, aux notables qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Dans ces lettres, elle avait écrit, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux hommes sans morale qui témoigneront contre lui en disant, « Tu as maudit Dieu et le roi. » Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les notables qui habitaient dans cette ville, agirent selon les instructions de Jézabel, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux hommes sans morale vinrent s'asseoir en face de lui. Ces hommes sans morale portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Ils firent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, « Prends possession de la ville de Naboth le Jisréélite, qui avait refusé de te la donner pour de l'argent. Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Quand il lui apprit que Naboth était mort, Akab descendit à la vigne de Naboth le Jisréélite pour en prendre possession. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie, le Tishbite, et lui dit, « Descends, va à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui est à Samarie. Il est dans la vigne de Naboth, il y est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, tu as assassiné et tu prends possession. » Tu lui diras aussi, « Ainsi parle le Seigneur, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront ton propre sang. » Akab dit à Élie, « Tu m'as trouvé, mon ennemi ?» Il répondit, « Oui, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu en faisant ce qui déplaisait au Seigneur, je fais venir un malheur sur toi, je te balayerai, je retrancherai de chez Akab tout mal, l'esclave comme l'homme libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baasha, fils d'Aïa, parce que tu m'as contrarié, que tu as fait pécher Israël. » Quant à Jézabel, le Seigneur a dit, « Les chiens mangeront Jézabel près des remparts de Jisréel. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » Jusqu'ici, cette triste histoire. Comment réagissons-nous lorsqu'une limite est mise à l'un de nos désirs? C'est l'une des questions que nous pose ce récit, où nous découvrons un roi, Akab, auquel rien ne manque, Nous le découvrons désirer la vigne d'un pauvre citoyen d'une ville juste au pied de son palais et se morfondre, faire une véritable grève de la vie parce qu'on lui a refusé un coin de vigne, ce coin sur lequel il avait jeté son dévolu. Ceci n'est pas à vendre, lui avait simplement dit Naboth. Et son refus était parfaitement légitime. Naboth, c'est l'histoire d'un petit qui défend son bien personnel face à un puissant qui n'y voit qu'un objet de plus, qu'une marchandise de plus à s'approprier. Naboth, c'est le refus du tout est monnayable, du tout doit céder devant l'argent. Mais Naboth payera cher ce refus. L'humble petit propriétaire ne tiendra pas contre les assauts du pouvoir qui se dressera contre lui. Le pot de terre ne fera pas le poids contre ou face au pot de fer. Et nous assistons ici à une bien triste histoire, à un scénario malheureusement trop souvent répété sur la terre. Dimanche dernier, nous avons considéré les choses du point de vue d'Akab, ce désir qui monte en lui, la contrariété face à ce désir. Et nous avons laissé Akab contrarié, enfermé dans sa chambre, refusant toute nourriture en pleine grève de la vie. Et on a envie de dire, si seulement l'histoire s'était terminée là, car une frustration fut-elle royale, on s'en remet. Avec un peu de réflexion, même on peut en apprendre quelque chose. Mais là, le refus de la limite imposée par Naboth conduira Akab et surtout Jézabel, sa femme, à commettre l'irréparable. Et c'est ainsi que la vigne du désir deviendra la vigne de l'injustice et du meurtre légalisé. Dans son épître, dans le Nouveau Testament, Jacques compare les chemins du mal à une lente gestation. Et il nous dit que nous sommes en général amorcés par nos mauvais désirs, et c'est ce qu'on voit chez Akab. Puis, continue-t-il, ce mauvais désir conçoit, et il donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, enfante la mort. Et c'est vraiment ce que nous découvrons ici, dans ce récit. Ceci dit, reconnaissons que certainement, pour la plupart d'entre nous, une telle histoire se serait certainement arrêtée d'elle-même. Alors je ne dis pas cela parce que nous serions forcément beaucoup meilleurs qu'Akab ou que Jézabel, mais simplement parce que nous, nous avons moins de moyens, moins de pouvoir que n'en avaient Akab et Jézabel. Akab est là, fait boude à cause de son désir frustré, mais Jézabel s'approche de lui et dit « Alors, allons, est-ce que c'est toi qui exerces la royauté en Israël ou quoi ?» La vigne de Naboth, moi, je te la donnerai. Et elle peut le dire. Et elle peut le faire, en effet. Regardez-la envoyer ses lettres. Regardez-la cacheter ses lettres avec le sceau royal. Regardez-la donner ses ordres pour son stratagème. Elle a le pouvoir. Elle a les moyens. Elle n'est pas limitée de l'extérieur. La limite, du coup, il faudrait la mettre à l'intérieur, dans ses décisions à elle. Mais cela, elle ne le fait pas. Et ça nous rappelle qu'avoir des moyens, qu'avoir de l'influence, qu'avoir peut-être de l'autorité, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Avoir de larges possibilités pour agir, c'est une responsabilité. Ce n'est pas juste un grand bazar de jouets où on peut s'en donner à cœur joie comme des gamins. C'est une responsabilité que toutes les possibilités qui sont les nôtres, si nous en avons. Car tant de choses peuvent être utilisées pour le meilleur comme pour le pire. Et quand nous ne sommes pas limités de l'extérieur par des contraintes, il nous faut savoir mettre les limites nous-mêmes par rapport à nos choix. Et là, on est dans la responsabilité. Un jeune, par exemple, qui a grandi dans un village où tout le monde connaît tout le monde, fait cette expérience quand il arrive dans une ville où personne ne connaît personne. Tout d'un coup, il n'y a plus tellement de limites. Les limites du regard des autres dans son village, elles n'existent plus dans la ville anonyme. Et du coup, les limites, il faut se les mettre soi-même plutôt que de les recevoir de l'extérieur. Il est important de nous rappeler que les limites, nous avons donc à les mettre nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours évident. Et quand nous pensons aux puissants, et quand nous pensons aux décideurs de ce monde qui ont tant de moyens et qui ont si peu de limites à leurs désirs, combien de Naboth spoliés aujourd'hui, bafoués injustement, réduits à rien dans ce monde? Combien de Naboth hier, aujourd'hui, demain? Ce texte de la Bible est une protestation, une véhémente protestation, mais avec en fond le rappel de notre responsabilité. Et il faut bien le marquer. Mais arrêtons-nous d'un peu plus près à l'enchaînement des événements. Tout commence par une sorte de petit jeu entre Achab et Jézabel, sa femme. Ceci face donc à la limite posée par le refus de Naboth. Achab, dans ce jeu, joue à celui qui subit la limite et qui proteste en quelque sorte par son impuissance. Il boude, il se plaint, il se pose en victime. Jézabel, en face, va prendre le contre-pied. Elle se pose, elle, comme celle qui se moque des limites, en disant « j'ai le pouvoir pour faire ce que je veux ». Elle veut réhabiliter son mari de roi, elle veut le requinquer un peu, le pauvre, il est si mal. Mais plus encore, c'est une occasion pour elle de montrer ce dont elle est capable. Et si son mari est faible, elle sera forte. Elle sera efficace et on verra bien où est la vraie efficacité, où est le vrai pouvoir. Achab voit que sa femme prend les initiatives. Il sait très bien ce dont elle est capable, mais il ne la freine pas. Il se réfugie dans son rôle de victime et la laisse faire. Il ne veut pas savoir les moyens qu'elle emploie, ce qu'elle fait dans son bureau, ce qu'elle écrit. Tout ça, il ne veut pas le savoir. Il ne dit rien. Mais il attend. Et il sait que tôt ou tard, par un biais ou un autre, il aura ce qu'il désire s'il la laisse faire. Derrière son apparente capitulation devant la limite, Achab n'a pas renoncé. Quant à Jézabel, derrière son apparente défense de son mari, elle joue son propre pouvoir. Comme c'est subtil, ces multiples façons dont on peut s'entraîner les uns les autres dans le mal. On le voit ici. Chacun y trouve son compte. Ceux qui paraissent fermes, ceux qui semblent les leaders, tout comme ceux qui paraissent faibles et qui semblent être les suiveurs. Souvenons-nous, par exemple, d'un autre jeu de ce type-là qui a abouti au même résultat. Le jeu funeste entre Pilate et les chefs religieux lors de la condamnation de Jésus. L'apparente faiblesse de Pilate a nourri la détermination des chefs religieux. Et finalement, chacun s'est appuyé sur l'autre. Quand on se laisse glisser vers le mal, les attitudes fortes comme les attitudes faibles sont dangereuses. La seule chose qui permet vraiment de s'en sortir, c'est un refus clair, un refus net. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ni par faiblesse comme Achab, ni par volonté d'affirmer ta puissance comme Jézabel, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, par une juste détermination. Voilà pour ce petit jeu auquel il est bon d'être attentif, pour veiller aussi dans nos relations, à savoir être vigilant dans toutes ces petites subtilités qui peuvent arriver. Mais suivons à présent Jézabel dans ses initiatives. Que fait-elle ? Nous la voyons utiliser les ressources du pouvoir. Elle a des lettres qui seront marquées du sceau d'Achab. Et il y a là de quoi, bien sûr, intimider les gens de la ville de Jisréel. Il y a aussi de quoi légitimer ce qu'il va faire, de quoi légaliser ce qui va être fait. On obéit au roi. On a reçu un courrier. On a reçu des ordres. Elle utilise aussi les subalternes, les notables de la ville de Jisréel. Ce seront eux qui feront tout. Et eux-mêmes utiliseront d'autres subalternes, de faux témoins qui accuseront Naboth. Et il pourra être condamné ainsi en toute légalité. Dans toute cette affaire, il faudra en tout cas sauver les apparences et entraîner tout le monde dans une sorte de mise en scène qui doit paraître naturelle dans son déroulement, mais en fait où tout est écrit d'avance. Jézabel donc invite les responsables de la ville de Jisréel, la ville de Naboth, à proclamer un jeûne. Pourquoi proclamer un jeûne ? Ce jeûne, c'est se priver de nourriture pour prier, pour demander une faveur. C'est certainement une manière de faire sentir qu'il y a une sorte de menace qui pèse sur la ville. Un jugement de Dieu qui certainement menace. Une faute grave qui a dû être commise quelque part parmi le peuple. Ce jeûne a pour but de mettre l'opinion sous pression. Il y a une menace de jugement de Dieu. On ne dit pas la cause de la menace, ce qui augmente encore la pression. Et il ne restera plus, au moment voulu, qu'à désigner le responsable. Ah, le bouc émissaire ! Faites asseoir Naboth devant, et des gens viendront en disant « Ah, je l'ai entendu !» Il a maudit Dieu, il a maudit le roi. Oui, voilà la cause de cette menace qui justifiait le jeûne. Grâce à ce conditionnement savamment orchestré, la condamnation de l'accusé ne fera aucun doute. Et on assiste ici à un épisode tristement affligeant. Quelle accumulation de détournements pour arriver à ses fins. D'abord, un détournement de la vérité. On fait croire à une menace. On désigne un coupable. On produit de faux témoignages. Détournement de la vérité. Détournement ensuite du nom de Dieu. C'est parce que, soi-disant, Naboth a maudit Dieu qu'il est condamné. Lui qui, dans cette affaire, s'était simplement réfugié derrière le droit que lui garantissait la loi de Dieu de garder le patrimoine familial. Détournement troisièmement d'un acte religieux. Le jeûne, censé demander la faveur de Dieu, le jeûne est utilisé au service du mal. Alors que normalement, il exprime un besoin d'ouverture à Dieu, un besoin, une attente de Dieu. Et tout cela avec un cynisme et une hypocrisie totale. C'est Jézabel qui, depuis des années, s'oppose ouvertement à tout ce qui se rattache au culte du Seigneur. C'est elle qui propose un jeûne, c'est elle qui propose de s'humilier devant ce Seigneur, et c'est elle qui fait condamner quelqu'un qui aurait maudit Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années en introduisant le culte de Baal en Israël ? C'est elle qui se pose en défenseur de l'honneur de Dieu bafoué. Et je crois qu'on a ici un terrible éclairage sur toutes les combines du mal. Toutes les combines du mal. Voilà ce que le mal, que nous commettons aussi, est capable de faire, est capable d'inventer lorsqu'il s'agit de couvrir une action mauvaise. On est parfois prêt à tellement de stratagèmes pour couvrir, pour que surtout on ne voit pas. Tellement de stratagèmes auxquels dans lesquels on est prêt à se lancer. Mais je dirais que nous avons aussi ici une illustration de ce qui cause ce qu'on peut appeler la prolifération du mal. Voyez tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour couvrir une injustice. Voyez la somme de trahison, la somme de détournement, la somme d'hypocrisie pour commettre une seule faute en se donnant l'apparence du bien. Akab et Jézabel ici, si on prend les 10 commandements, Akab et Jézabel ici transgressent le 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Et pour justifier cette transgression du 10e commandement, qu'est-ce qu'ils font pour couvrir cette transgression ? Ils sont amenés premièrement à transgresser le 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ils sont amenés ensuite à transgresser le 8e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. À transgresser le 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Et pour finir, le 7e, tu ne voleras pas, parce qu'ils volent bien le champ de Naboth avec tout cela. Vous voyez combien un commandement, et qui semble certainement le plus subtil, tu ne convoiteras pas, la transgression d'un commandement amène en chaîne toutes sortes de transgressions successives. C'est impressionnant. Et pourtant, c'est tellement réel. Lorsque l'on veut couvrir le mal, c'est souvent avec une accumulation d'autres fautes que l'on peut le faire seulement. Et c'est un des facteurs de la prolifération du mal, et qui fait que tout se gangrène tellement plus. Apprenons, veillons à ne pas entrer dans ces engrenages-là, à dire non au mal, à nous arrêter lorsqu'il est encore temps, C'est si facile de s'arrêter quand il est dit « tu ne convoiteras pas » plutôt que de passer à tout le reste. Sachons nous repentir et revenir d'un chemin mauvais que nous avons peut-être commencé à suivre plutôt que d'y persévérer, de vouloir nous couvrir et de devoir participer comme cela à cette prolifération du mal, à ces engrenages du mal. Voilà pour tout ce qui concerne cette démarche de Jézabel et cette prolifération du mal parce qu'on cherche à couvrir une faute et qu'on n'est pas prêt plutôt à revenir sur soi-même. Mais si l'on regarde ce récit, il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres acteurs dans cette triste histoire de pouvoir et d'injustice. Car il y a dans ce texte un terrible silence. Un terrible silence. Et ce silence ou cette inaction, c'est celui des concitoyens de Naboth, des anciens, des notables de sa ville, de ses voisins, de ceux qui le connaissaient parfaitement. Pas une voix pour s'élever en sa faveur. Pas un responsable qui dénonce la combine qui était pourtant transparente, qui était même clairement exposée par Jézabel. Aujourd'hui, les journalistes d'enquête aurait beau jeu de reprendre le texte de son décret et de publier les choses. Mais là, personne ne fait rien. Certains savent qu'une injustice se commette. D'autres probablement s'en doutent. Chacun aurait pu demander que soient vérifiés les faits alors qu'il est accusé. Et pourtant, rien n'est fait. Et ça nous rappelle que l'action mauvaise n'est pas la seule façon de participer à l'injustice. Il existe aussi des inactions coupables, des laisser-faire coupables. Et je crois que notre texte le suggère ici. C'est intéressant de voir la manière dont est décrite l'exécution des instructions de Jézabel. Il est précisé, verset 11, « Les gens de la ville de Naboth » Les responsables, les magistrats qui habitaient dans la ville agirent selon les instructions de Jézabel. Il souligne que c'est les gens de la ville de Naboth qui ont laissé faire et qui ont agi selon les instructions. Et le texte s'étonne d'une certaine façon que ce soit eux, les gens de la ville de Naboth, qui agissent de cette façon-là. La formulation rappelle leur responsabilité. Ils étaient les plus proches garants de leurs concitoyens de Naboth. Ils se sont tus. Naboth avait su dire « ce n'est pas à vendre » lorsque le désir d'Akab avait franchi la limite du légitime. Les gens de la ville de Naboth n'ont pas su dire lorsqu'ils ont été sollicités par Jézabel « ma conscience n'est pas à vendre ». Ils n'ont pas su dire cela. Ils n'ont pas su dire « ma tranquillité n'est pas à vendre ». Ma place de notable n'est pas à vendre. Mon intégrité personnelle n'est pas à vendre. Ils n'ont pas su dire cela. Et ce texte nous rappelle qu'il y a des devoirs, qu'il y a des responsabilités qui nous incombent. Qu'il y a des devoirs, qu'il y a des responsabilités en tant que citoyen. Il y a des lieux où l'action contre l'injustice, où la résistance, où le refus sont de notre devoir. Sont de notre responsabilité morale. Il y a des vigilances à exercer pour limiter le mal, des vigilances à exercer pour limiter certaines injustices. Et tout comme les gens de Naboth, de la ville de Naboth, nous avons à exercer ces vigilances là où nous en avons la possibilité. Alors c'est une vaste question sur laquelle il faudra certainement revenir. Mais je rappelle les paroles de ce psaume 146 que nous avons lu tout à l'heure. Ce psaume nous parle du caractère de Dieu et il nous décrit un Dieu qui lui agit en faveur des opprimés et qui va agir selon l'équité. Un Dieu qui donne du pain aux affamés, qui aime les justes, qui garde les immigrés, qui soutient l'orphelin, la veuve. Autrement dit, la justice, l'équité, la défense des plus faibles, cela fait partie du souci de Dieu. Cela fait partie du souci de Dieu. Et s'il est dit que le Seigneur le fait, c'est pour dire qu'il veut aussi agir dans ce sens-là. Mais si c'est le souci de Dieu, c'est aussi appelé à être le souci du peuple de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à nous revêtir de ce même souci, et c'est aussi le sens de ces affirmations sur Dieu. Et les prophètes l'ont rappelé régulièrement. Le prophète Ésaïe s'écrit au tout début de son message et dit « Apprenez à faire le bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. » C'est un message fort, c'est un message central que les prophètes ont souvent fait entendre. Si nous réfléchissons à cette situation de Naboth, il en existe tant dans le monde d'aujourd'hui. Tant de pouvoirs qui bafouent les droits fondamentaux de la personne. Nous sommes sensibilisés à la situation de nos frères et sœurs dans la foi, nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent en bien des pays de persécution. Nous prions pour eux. Mais peut-être pourrions-nous aussi faire un pas de plus lorsque ce l'est possible. Prendre aussi notre plume pour écrire, leur écrire, bien sûr, ça les soutient, mais aussi intervenir en leur faveur par des courriers adressés auprès des gouvernements qui les oppriment. Nous avons des moyens d'action de ce genre, utilisons-les. Nos frères et sœurs chrétiens souffrent, mais bien d'autres personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, sont menacées de mort, sont menacées de torture injustement. Et souvent pour leur combat en faveur des libertés. En Turquie, un homme qui manifestait contre des disparitions forcées est paralysé à vie actuellement par une balle qu'il a reçue d'un policier lors de cette manifestation. Et il est victime de l'acharnement policier et judiciaire. Des journalistes, des avocats sont portés disparus en bien des endroits parce qu'ils font des enquêtes sur des sujets indésirables pour certains pouvoirs. Et des associations de lutte existent qui agissent, qui essayent d'intervenir en faveur de la justice pour rappeler aux dirigeants les limites. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, en est une qui est sérieuse, bien informée. Et s'il semble parfois que la seule action qui consiste à écrire ou à protester auprès des gouvernements est si peu de choses, souvenons-nous que des fruits sont là à ce genre d'initiative. Chaque année, en ce qui concerne la CAT par exemple, les interventions contribuent à mettre fin au calvaire d'environ 200 personnes, 200 Naboth sur la terre qui sont quand même secourus par l'intervention des uns des autres qui agissent, qui écrivent auprès des gouvernements. Et s'il n'y avait pas ces interventions, on sait que le droit serait totalement bafoué. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, les choses peuvent partir si vite dans le sens du pouvoir qui s'absolutise. L'information, la protestation font encore partie des choses qui comptent dans notre monde. Il s'agit pour nous de savoir utiliser aussi ces armes-là si nous voulons être citoyens qui veillent aussi à ces questions de justice. D'autres actions chrétiennes exercent une vigilance par rapport à la pauvreté. Et il existe des situations de pauvreté qui ne sont pas loin de cette manière de spolier le bien d'autres pays que l'on trouve ici dans ce récit au niveau individuel. Le défi Miché, par exemple, est une initiative de l'Alliance évangélique mondiale et d'un réseau d'œuvres chrétiennes. Et cet ensemble cherche à agir, à mobiliser des chrétiens pour qu'ils rappellent au gouvernement de tenir leurs engagements, ces engagements qu'ils ont pris de réduire la pauvreté dans le monde. Il y a des engagements qui ont été pris à l'ONU de vouloir réduire de moitié la pauvreté d'ici 2015. Ça a été pris, ces engagements, c'est souvent lettre morte. Mais ce sera encore plus lettre morte si personne ne les rappelle, si personne n'agit, si personne ne proteste. On est sûr à ce moment-là que ce sera une lettre morte. Il faut des rappels si l'on veut que ces objectifs puissent demeurer et avoir une chance de faire avancer au moins un peu les choses. Il faut des rappels pour que cela tienne tant soit peu face à des lois, aux lois si puissantes de l'argent et du profit qui semblent être souvent la règle universelle. Et il est juste qu'en toute sagesse, qu'en tout discernement, les chrétiens fassent partie de ceux qui rappellent à nos gouvernements qu'ils ont une responsabilité sociale, qu'ils ont un devoir de justice, un devoir d'équité. La Bible nous invite à respecter les gouvernants, à prier pour eux, et nous le faisons. Mais respecter ne veut pas dire se taire face à ce qui est mal, ni laisser faire tout et n'importe quoi. Nous avons, pour autant que nous le pouvons, à rappeler ce qui est juste et à prendre position face à l'injustice. Paul nous invite à prier pour nos gouvernements, nos gouvernants, afin, dit-il, que nous puissions vivre une vie paisible en toute piété et dignité. Vivre en toute piété et dignité, ce n'est pas simplement avoir la liberté comme une chaise longue. Je crois souvent on pense à cela. On veut la liberté, Seigneur, pour être tranquille, la liberté comme une chaise longue. Vivre en toute piété, en toute dignité, ça veut dire avoir le souci des autres. Avoir le souci des autres aussi. Et le souci de leurs droits, comme nous le rappelle notre texte ici. Notre Seigneur Jésus avait, lui, clairement choisi son camp. Il ne s'est jamais complu en lui-même. Il s'est donné. Il a même accepté d'être victime de l'injustice des hommes pour nous donner devant Dieu un statut nouveau que nous ne méritions pas le moins du monde. Il a voulu payer le prix qui rend possible le pardon de Dieu gratuitement. Il a voulu pouvoir nous déclarer acquittés de nos fautes si nous les confessons et nous donner ainsi le droit d'être rappelés par pur cadeau, enfant de Dieu, un droit qui nous est donné. Et pour cela, le Seigneur Jésus s'est engagé vraiment. Le livre des Proverbes donne cette instruction à un jeune roi. Il lui dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et défends la cause du pauvre et du déshérité. » La justice, l'équité font partie des valeurs fortes, des valeurs centrales de notre foi chrétienne, de notre foi chrétienne. Ne les laissons pas au placard. N'agissons pas comme les gens de la ville de Naboth. Mais assumons, en toute responsabilité, avec les moyens qui sont les nôtres, avec sagesse, avec réalisme aussi, sans en attendre non plus le changement total du monde, mais en étant attentif au bien relatif qu'apportent certaines actions. Assumons l'appel qui nous est adressé à porter ces valeurs au sein de notre société, au sein de notre monde qui est devenu un immense village planétaire. Un dernier mot sur notre récit. Notre récit se termine par l'intervention d'Élie. Le prophète, qui était resté dans l'ombre pendant longtemps, revient sur les devants de la scène. Et il intervient auprès d'Akab, au moment où celui-ci s'est installé tranquillement dans la vigne que lui avait si gentiment offerte sa femme Jézabel. Et on voit Élie se rendre auprès d'Akab alors qu'il est dans la vigne. Il vient trouver le roi sur les lieux mêmes de son injustice. Et alors qu'il croit pouvoir profiter tranquillement de sa vigne et du fruit de son injustice. Et Élie dit les mots clairs à Akab, les mots qu'il doit entendre. Tu as assassiné et tu prends possession. Tu as assassiné et tu prends possession de cette vigne. Autrement dit, Dieu sait nous retrouver. Dieu sait nous retrouver. On peut peut-être se faire toutes sortes de films pour se dire que tout est bien maintenant dans cette vigne de l'injustice. On peut se faire toutes sortes de films pour dire « Oh, qu'il fait beau, qu'il fait bon, que la brise est bonne !» Dieu n'oublie pas. Et ce récit nous le rappelle. Et le Seigneur voit. Et Élie apporte au roi et à sa femme Jézabel un message clair de condamnation. Et c'est le rappel que le Seigneur Dieu reste le garant de la justice. Ce n'est pas une question sur laquelle il passe comme ça, qu'il efface. Il reste le garant de la justice. Mais je me suis demandé pourquoi Élie est intervenu après et non pas avant le meurtre de Naboth. C'est quand même une question. Et il me semble que l'une des raisons est certainement qu'Akab savait ce qu'était son devoir. Akab savait qu'il n'avait pas à agir de la sorte. Et je crois qu'une des, un des messages, c'est de dire que Dieu ne va pas nous envoyer à chaque fois un messager spécial lorsqu'il nous a déjà donné ses commandements. Il y a une responsabilité à appliquer ce que nous savons. Et je pense qu'il y a peut-être une autre raison à cette manière d'agir. Il semble que ce texte nous montre que la responsabilité d'intervenir incombait d'abord aux gens de la ville de Naboth. C'était eux qui connaissaient Naboth, c'était eux qui étaient au plus près de la situation. C'était à eux qu'il y avait une responsabilité. Autrement dit, la responsabilité citoyenne est une vraie responsabilité devant Dieu. Elle nous est vraiment confiée, pour le meilleur et pour le pire. Essayons de l'utiliser par la grâce de Dieu pour le meilleur. Amen.